Mola, archive sonore.
Sergent d'Ormesson, nous reprenons une conversation qui est déjà ancienne maintenant, finalement, qui en général s'interrompt. Combien de temps mettez-vous à écrire un livre? Quelques mois?
Non, rassurez-vous, 3 ans.
3 ans, alors bon, qui, ça, de temps en temps s'interrompt pour quelques années, mais là qui reprend après 3 jours d'interruption, ce qui est vraiment peu de choses, puisque nous avons conversé ensemble au Salon du Livre samedi dernier. Ce qui d'ailleurs me met dans un état de vraie perplexité, oui. Car nous, vous aussi d'ailleurs, nous nous demandons, est-ce que c'est le même public? Est-ce que c'est un autre public? Est-ce qu'on peut poser les mêmes questions? Est-ce que vous pouvez faire les mêmes réponses?
Oui. Alors d'abord j'ai le choix entre me répéter ou me contredire. Et puis j'aimerais beaucoup savoir si ce sont les mêmes qui sont là, qui étaient là avant-hier, parce que je prends racine à Bordeaux, qui sont ceux qui étaient déjà l'autre jour
au
Salon du Livre.
Levez le doigt.
Levez le doigt.
Ah, il y en a quelques-uns.
Et vraiment,
ah,
oui, et oui. Vous êtes revenus. Alors ça, merci en tout cas, merci.
Alors, je vais vous raconter une histoire. D'abord, je vais dire quelque chose.
Oui. On va se raconter des histoires.
On va se raconter des histoires. Oui. Alors, au Salon du Livre, le public, après votre départ, qui était évidemment très précipité, puisque vous aviez un avion à prendre, le public a manifesté sa déception et sa satisfaction. Alors, auprès de moi, naturellement. Sa déception parce que vous étiez parti si vite qu'il n'avait pas pu faire signer le rapport Gabriel, faire dédicacer les livres. Donc ce soir, ce sera possible. Qu'il n'avait pas pu vous poser de questions. Et ce soir, ce sera possible.
Voilà.
Voilà. Alors ça, c'était la déception.
Et nous nous revoyons dans 4 jours et j'espère que vous serez encore plus nombreux. Et
alors là, il y avait quand même, les gens étaient quand même assez contents, semble-t-il, n'est-ce pas, de ce à quoi ils avaient assisté. Et alors, il y a une dame, alors peut-être est-elle là parmi celles qui ont levé le doigt tout à l'heure, qui est venue me voir à la fin pour m'adresser des compliments qui vous étaient destinés, bien entendu. Mais enfin, bon, pour me dire que c'était très bien et tout. Et qui m'a demandé... Alors, vous préparez ça longtemps à l'avance avec Jean d'Ormesson. J'ai dit, comment nous préparons ça? Mais ben, il écrit le livre et je le lis. Alors, oui, mais non, mais vous répétez avant, vous répétez. Non. Au moins, vous lui soumettez vos questions et il prépare ses réponses. J'ai dit non. Et alors, elle avait l'air un peu déçue, n'est-ce pas, que ce numéro de Cabot, peut-être, que nous faisons, je ne sais pas, n'est-ce pas, soit pas davantage préparé. Voilà.
Eh bien, vous savez, on m'a posé exactement les mêmes questions avec Pivot. Et on m'a dit, naturellement, vous avez préparé, vous avez répété. Et je peux vous assurer qu'on ne répète pas avec Pivot et qu'il n'y a pas de contact, qu'il n'y a pas de préparation et qu'on ne sait pas les questions qui va se poser. Et là, Foutit et Chocolat sont absolument libres de toute entrave.
Foutit et Chocolat improvisent, voilà. Eh bien, justement, je vais commencer par... Alors, c'est une question que j'ai soigneusement évité de vous poser samedi dernier, par délicatesse. Mais tant pis, aujourd'hui, on commence dans l'indélicatesse, mais tout de suite...
Voici Yves Jeunesse a tout asservi. Par délicatesse, j'ai perdu ma vie.
Oui, par délicatesse, j'ai perdu... Il faut que vous parliez plus près du...
Vous m'entendez?
Oui. Il faut parler très près de cette chose.
Bon.
Voilà, comme ça.
Vous ne parlez pas grand-chose.
Alors, voilà la question. Elle est indélicate. Avant même que le livre ne paraisse, avant qu'il ne soit en librairie, on commençait d'en parler. Et la presse entière s'est emparée d'une phrase de ce livre qui a été prononcée par le président de la République, le précédent, lors d'un petit déjeuner que vous avez eu avec lui. Donc, je voudrais que vous commentiez, n'est-ce pas, l'épisode, bien sûr, lui-même, le petit déjeuner avec François Mitterrand, la phrase sur le lobby juif, et je voudrais aussi que vous me disiez comment ça se fait, est-ce que vous avez prévu que cette phrase allait être celle qu'on épinglerait dans le livre, qu'on isolerait du livre, qui servirait aussi le livre, parce que ça a été une publicité absolument étonnante, n'est-ce pas, pour le rapport Gabriel. Mais est-ce une publicité que vous avez choisie? J'en suis pas sûr.
Alors on va commencer par la fin, on va commencer par la deuxième question. D'abord j'ai été surpris naturellement par ce déferlement. Naturellement, si j'ai raconté cette histoire, c'est que je me suis dit que ça intéresserait un certain nombre de gens. Et j'avais bien prévu que, plus encore que le public de lecteurs, les médias se jetteraient sur cette affaire. Mais je pensais aussi que les médias se jetteraient sur d'autres épisodes. Par exemple, celui d'Emmanuel Berle. Emmanuel Berle était un écrivain juif d'extrême gauche que j'aimais éperdument et que j'admirais beaucoup. Et je le voyais régulièrement. Et un beau jour, je suis arrivé chez lui, hors de moi, en lui disant: quand même, les gens sont invraisemblables. Vous savez ce qu'ils ont inventé? Maintenant, ils ont inventé que c'est vous qui avez écrit les discours du maréchal Pétain. Et il m'a répondu: mais c'est tout à fait vrai. Et alors je lui ai dit: mais pourquoi? Pourquoi? Et il m'a dit: ils étaient si faibles, il fallait bien les aider un peu. Alors, l'affaire de Mitterrand, d'abord, faites-moi, je vous prie, le crédit de croire que je n'ai pas mis ça pour faire parler du livre. C'est vraiment une idée qui ne m'a pas traversé la tête. Je n'ai pas beaucoup de chance avec quelques initiatives de ma part. Ça m'a rappelé exactement une autre histoire. Quand j'ai essayé de faire entrer Marguerite Yourcenar à l'Académie française. Et Marguerite Yourcenar n'est pas entrée avec mon aide, elle est entrée exclusivement à cause de moi. Et naturellement de son talent, mais je veux dire, à l'Académie, elle n'était à l'Académie, elle n'était défendue que par moi, exclusivement. Et L'Express, je crois, pour ne pas le citer, avait dit qu'on s'était battu à l'Académie. On ne s'est naturellement pas battu à l'Académie. Mais il y a eu des trucs qui ont volé dans l'air qui ne m'avaient pas fait plaisir. Je me rappelle d'un de mes confrères, je ne vous livrerai pas son nom, il est mort d'ailleurs, qui avait dit devant moi: vous faites ça pour soigner votre publicité. J'avais trouvé ça quand même un peu raide. Je dois vous dire que je n'agissais même pas par féminisme. Je trouvais inouï qu'il y ait un grand écrivain, unanimement reconnu, et qu'il soit refusé par la simple routine. Il n'y avait aucun texte à l'Académie qui interdise l'entrée des femmes. Je trouvais inouï qu'on ne laisse pas entrer une femme parce qu'il y avait 350 ans qu'elle n'y entrait pas. Dieu sait que je suis attaché au passé, mais pas dans ce sens-là. Eh bien, l'affaire Mitterrand m'a rappelé...
Puisque vous prenez des chemins de traverse, est-ce que c'est vrai qu'on vous dit qu'on ne s'est pas battu? Un de vos confrères vous a traité de galopin à l'occasion de Marguerite Yourcenar.
Galopin, oui, galopin. C'est exagéré. J'ai une tante comme ça. J'ai une tante qui était très, très parisienne. Elle avait une fille très jolie. Il y avait un jeune homme qui voulait épouser sa fille. Et elle ne voulait pas. Et un jour, elle va à l'opéra. Et elle était dans une loge en haut. Et le jeune homme qu'elle avait refusé était en bas. Et le jeune homme lui a crié: espèce de grande putain. Et à ma stupeur, elle a répondu: grande putain, c'est très exagéré. Voilà. Alors,
Vous n'aviez pas prévu que la presse allait...
Alors, je n'avais pas prévu ça pour Mitterrand. Et je dois vous dire que je n'ai pas entretenu la polémique. Je n'ai pas entretenu la polémique. Moi, j'ai raconté ce que j'avais entendu. Maintenant, peut-être je suis un peu sourd, mais il y a 4 ans, je n'étais pas sourd et j'avais bien entendu ce que j'avais aussitôt marqué en rentrant à la maison. Je n'ai pas nourri la polémique, mais je ne me suis jamais dérobé aux questions. Et pour dire les choses un peu rapidement quand même, plus personne ne met en doute, ni à droite, ni à gauche, que les paroles ont bien été prononcées. Plus personne ne les met en doute parce que ça correspond à un certain nombre d'indices. J'ai dans mes poches des lettres me disant, de gens de gauche, me disant: il m'a dit la même chose. Et plus personne ne doute qu'il l'ait dit. Encore une parenthèse, j'ai été extraordinairement modéré. Parce que, avant de prononcer ces quelques mots sur le lobby juif, Mitterrand, avec d'ailleurs un brillant extraordinaire, avait passé en revue avec moi le personnel politique. Et j'avais remarqué qu'il était surtout dur pour ceux de son bord, par politesse peut-être pour moi. Et moi, très bien élevé également, je lui disais, vous savez, ceux de mon bord ne sont pas forts non plus. Et je lui donnais un certain nombre d'exemples. Et il me disait, oui, vous avez raison, ils ne sont pas forts. Mais les miens, si vous saviez. Et il commençait à dire des choses que je ne dirais jamais, parce que ça met en cause des gens qui sont vivants et que je ne suis pas le canard enchaîné ni minute et que je n'ai aucune intention de faire la polémique partisane. Si j'ai raconté ces mots, c'est qu'il m'a semblé, contrairement à ce qu'on m'a dit, car une fois qu'il a été acquis que le président avait dit ces mots parce qu'il les avait dit à d'autres, la formule employée à mon égard a été « il l'a peut-être dit, mais il ne fallait pas le répéter. » Et plus exactement, pas vous, pas comme ça, pas maintenant. Alors je ne suis pas devenu entièrement paranoïaque, mais qu'est-ce que fait Saint-Simon avec Louis XIV? Il répète ce qu'il a dit, et même il est beaucoup plus dur que je ne le suis. Qu'est-ce que fait Chateaubriand avec Napoléon? Tout ouvrage historique, tout mémoire serait impossible si on ne répétait pas. Et on m'a dit, vous ne l'avez pas répété de son vivant. Bien sûr que non, je ne suis pas un homme politique. Je n'allais pas me précipiter à la sortie de l'Élysée, à la radio. J'ai même résisté, qui me disait, qu'est-ce qu'il vous a dit? Et je leur ai dit, je n'ai aucune raison de vous le dire, peut-être le dirai-je un jour. Grâce à Dieu, j'ai répété ces quelques mots à certains de mes amis, souvent de gauche, qui s'en souviennent et qui se rappellent très bien que j'aurais raconté ces mots. Et il me semble que je n'avais pas le droit de répéter ce qui m'avait été dit, mais le devoir. On parle d'un devoir de mémoire, on parle d'un devoir historique. J'avais certainement le devoir de verser ces mots au dossier de l'histoire. Et je n'ai pas nourri la polémique encore une fois, mais puisque vous me poussez, mon cher Jean-Marie, si vous me demandez, est-ce que vous en tirez la conclusion que Mitterrand était antisémite, ma réponse est non, évidemment. Et s'il avait été antisémite, ce n'aurait pas été très intéressant de répéter cette formule. Moi, je connais des gens antisémites qui disent ces formules à longueur de journée. Ce n'est pas très intéressant. Ce qui était intéressant, c'était la contradiction. Tout ce livre est fondé en partie sur des contradictions. L'homme n'est rien du tout et il est tout. Notre Terre est tellement minuscule qu'on pourrait ne pas en parler et c'est le centre de l'univers. Ma famille était d'un côté libérale, de l'autre côté conservatrice, d'un côté progressiste, de l'autre côté réactionnaire. C'est ça ce qui est intéressant. Et je n'ai pas écrit un livre politique. Dans les journaux italiens, il y a eu des pages entières consacrées aux deux mots qui représentent, j'ai calculé, 1/400 millième du volume. Et mes amis italiens m'ont dit, alors tu as écrit un livre politique? Non, je n'ai pas écrit un livre politique. J'ai voulu éclairer les contradictions. Et s'il y avait un homme contradictoire, évidemment, c'était Mitterrand. C'était un homme à contradiction, à double fond, à secret, à ambiguïté, comme combien de fois a-t-on répété ça? C'est même moi qui ai dit, peut-être qu'on ferait mieux de ne pas parler tout le temps du Florentin, comme on le faisait, mais qu'on pourrait aussi parler du Vénitien, à propos de Mitterrand, car il adorait Venise. Donc, ce qui m'intéressait, c'était d'éclairer l'âme humaine, et il se trouve que l'âme humaine était, dans ce cas-là, celle d'un président de la République. Je n'avais vraiment pas de raison d'exercer une autocensure. Voilà ce que je peux dire, peut-être, sur cet épisode.
Je saisis le mot « contradiction » que vous appliquez au président de la République, le précédent, mais qui pourrait peut-être vous être appliqué, n'est-ce pas, à vous, Jean d'Ormesson. Alors, je vais vous relire.
Je parce ne que... suis que ça.
Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce très court portrait de Jean-Marie Rouard, qui siège à l'Académie française à vos côtés, et qui écrit à propos du succès de ce livre et du succès de vos livres en général, n'est-ce pas ? C'est sans doute parce que l'époque se retrouve en lui. Aristocrate mais républicain, de droite mais attiré par la gauche, écrivain mais lorgnant sur la politique, privilégié mais ayant perdu un château historique, il réconcilie les Français avec leurs contradictions.
Oui. Alors, sur ça, je voudrais dire peut-être plusieurs choses très rapides. D'abord, contradiction, bien sûr, j'ai un maître en contradiction. J'ai un maître en contradiction, c'est évidemment Chateaubriand. Et Chateaubriand est merveilleusement contradictoire. Et c'est un homme qui est ultra. Il était ultra, il n'était pas monarchiste, il était ultra. Et il était très sincèrement attaché à la liberté de la presse. Il était très catholique et il adorait les femmes. Il méprisait les honneurs, il les a recherchés toute sa vie. Il détestait, je crois, sincèrement l'argent, et il en a toujours eu, qu'il a dépensé d'ailleurs. Au point qu'il y a quelqu'un de bien intéressant qui s'appelle Henri Guillemin, qui écrivait des biographies souvent un peu... Il a traité Alfred de Vigny d'indicateur de police, il a traité Jeanne d'Arc d'hystérique, et sa thèse était que Chateaubriand était... terriblement menteur, ce qui est absolument hors de doute. C'était un formidable menteur, s'embrouillant dans ses mensonges. La plupart des hommes mentent entre deux femmes. Lui, il mentait entre trois, quatre, cinq. Alors, forcément, il perdait les fils, il s'embrouillait un peu. Et il disait, et c'est une thèse qui a été reprise tout récemment par quelqu'un que j'aime beaucoup, que vous verrez peut-être ici, qui s'appelle Fumaroli, qui fait un cours au Collège de France de Chateaubriand, et qui m'a téléphoné il y a 2 ans pour me dire, 1, je crois que Chateaubriand n'était pas monarchiste mais républicain, 2, je crois qu'il n'avait pas la foi. Je lui ai dit sur le premier point, je serais assez d'accord avec vous. Alexandre Dumas l'avait déjà dit, il n'aimait la monarchie que parce qu'il sentait que la monarchie était condamnée et qu'il se disait, il faut courir au secours de cette cause perdue. Sur le deuxième point, je suis en désaccord formel avec vous. Vous reprenez la thèse de Guillemin et je crois que c'est entièrement faux. Je crois qu'il était ardemment croyant, mais que c'était un pécheur. Et je dois vous dire que Fumaroli est arrivé aussi à cette même conclusion. Bien. Pourquoi je parle de Chateaubriand ? À cause de moi.
À cause de vous.
Donc, contradiction.
Et
encore une fois, sur Chateaubriand, restons un peu avec Chateaubriand, c'est mieux, vous savez. Il y a une formule magnifique de Sainte-Beuve, magnifique. Sainte-Beuve s'est énormément trompé. Je crois que Hugo l'appelait Sainte-Bévu. Et Hugo l'appelait aussi Sainte-Bave. Mais sur Chateaubriand, il y a une formule admirable qui dit tout. Il dit, c'était un épicurien qui avait l'imagination catholique. Eh bien voilà, je crois que voilà la clé de Chateaubriand, et donc il faut assumer cette contradiction. Eh bien, je suis entièrement contradictoire, et c'est un des motifs, parmi beaucoup d'autres, qui fait que je n'ai pas fait de politique active. On peut me faire beaucoup de reproches, et j'ai sûrement tendance, et je ne m'en vante pas, je crois que c'est une faiblesse. C'est pas comme ça qu'on fait les grandes choses, c'est pas comme ça qu'a agi le général de Gaulle. J'ai toujours tendance à donner raison d'abord à mes adversaires. Je me reprends souvent. Je me dis qu'en fin de compte, ils n'ont pas tellement raison. Mais enfin, j'ai une tendance à leur donner raison et je prendrai ardemment pour moi la formule d'Alain que j'aime tellement. Je ne suis pas souvent de ma propre opinion. Voilà. Donc, contradiction. Pour revenir au domaine plus proprement littéraire, c'est vrai que mes livres ont un avantage ou un inconvénient. Depuis de longues années, pas depuis le début, depuis de longues années, il rencontre la faveur du public. Est-ce que je m'en repens ? Non, je ne m'en repens pas. J'en suis enchanté. Je n'écris pas pour un petit groupe de gens. Je n'écris pas pour une chapelle. Je suis libéral et démocrate en politique. Je suis d'ailleurs très étonné que des écrivains de gauche soient souvent si arrogants et qui refusent tellement fort l'accord populaire. Eh bien, moi, je m'en réjouis. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai jamais été, et ça, j'y tiens beaucoup, au-devant du public. Je n'ai jamais écrit dans la mode. Quand j'ai commencé à écrire, c'était le règne de Sartre, c'était le règne du nouveau roman. D'ailleurs, je voulais saluer Madame Sarotte, qui était un grand écrivain, pour qui j'avais beaucoup d'admiration et énormément de respectueuse sympathie. Et je n'ai jamais donné là-dedans. J'ai écrit entièrement à contre-courant. Quand Gide régnait et quand Sartre régnait, l'un ayant dit « famille, je vous hais », et l'autre ayant dit « il n'y a pas de bon père, c'est la règle », j'ai écrit « au plaisir de Dieu ». Et j'ai écrit tous mes livres à contre-courant, plutôt à contre-courant. Je ne me suis jamais occupé de la mode, et si j'avais un conseil à donner à un jeune écrivain, un seul, peut-être je lui en donnerais deux. Si des jeunes écrivains venaient me voir, je leur dirais premièrement, méfiez-vous du journalisme. Je ne suis pas sûr que le journalisme soit une très bonne école pour la littérature. Bien sûr, s'il y a des jeunes gens qui viennent me voir qui veulent devenir journalistes, je les aide dans la mesure de mes moyens et je les pousse. S'ils veulent écrire, je ne suis pas sûr que le journalisme soit la meilleure école pour la littérature. Je leur conseillerais beaucoup plus tôt d'entrer dans les assurances, dans la banque, à l'UNESCO, c'est-à-dire de faire des choses... on ferme le tiroir et ensuite on s'occupe de la littérature. Tandis qu'il y a naturellement une parenté entre journalisme et littérature, mais cette parenté peut aussi être une contamination. Il y a une parenté, je ne veux pas me mettre là-dessus parce que je crois que vous en avez déjà parlé.
C'est une conférence.
Très souvent, et c'est une conférence que je fais tellement volontiers sur les rapports entre journalisme et littérature. On pourrait dire qu'Hérodote est le premier des journalistes, que Zola est un très grand journaliste et un très grand écrivain, que Hugo est un admirable journaliste. La mort de Balzac, la mort de Talleyrand, le procès Tess et Cubière, le procès Choiseul-Pralin, c'est des pages admirables. Mais vous voyez bien qu'un journaliste, c'est d'abord une équipe et que l'écrivain est seul. Pour dire les choses très très vite, le journaliste s'occupe de la vie. Et je suis convaincu que le journaliste est dominé quelque part par la mort. Et surtout, le temps. Mais la différence entre le journaliste et l'écrivain, le journaliste est tout entier du côté du temps qui passe et de l'urgent. Et l'écrivain est tout entier du côté du temps qui dure et de l'essentiel. Et donc, je dirais aux jeunes apprentis écrivains, méfiez-vous du journalisme. Un bon métier, si on veut mener une vie bourgeoise, c'est l'assurance, la banque. Un bon métier, si on cherche des racines plus proches de la base, c'est chauffeur de taxi. J'aurais beaucoup aimé être chauffeur de taxi, d'abord parce que j'aime bien conduire. Ensuite, on a des contacts avec des gens, pas trop, un peu. On se promène. Et puis, on attend. Et pendant qu'on attend, ça, c'est très bon pour écrire. Ça, c'est bon. Et le deuxième conseil que je leur dirais, c'est moquez-vous de la mode. Le plus sûr moyen d'écrire des navets, c'est d'écrire dans la mode. Et je n'ai jamais écrit dans la mode. Et si les lecteurs m'ont suivi, évidemment, je m'en réjouis. Mais je ne les ai pas recherchés.
Alors, on va parler du rapport Gabriel, quand même.
Oui, il serait mécontent si on n'en parlait pas.
Cela dit, je me réserve de vous reposer quelques questions sur tout ce que vous venez de dire, là. Est-ce qu'on peut rappeler... Parce qu'après tout, il y a des gens qui étaient au Salon du Livre samedi, mais beaucoup qui n'y étaient pas. Il y a des gens qui ont lu le livre, probablement certains qui ne l'ont pas lu. Est-ce qu'on peut rappeler l'argument du livre, n'est-ce pas ? Il y a quand même une chose qui m'a frappé, c'est que dans mon enfance, j'étais élève à Grand-le-Brun, et alors on allait tous les ans, au moment de la kermesse, je ne sais quoi, voir un film dans le cinéma voisin. Et c'était toujours naturellement des films très édifiants, Monsieur Vincent, etc. Et il me semble qu'il y avait un film, j'ai oublié le nom du réalisateur, qui s'appelait Dieu a besoin des hommes. Ah. Ça, bien sûr, ça veut dire quelque chose. Ça,
il y avait comment voilà. Il y avait Freinet dedans, je crois.
Il y avait Pierre Freinet, il y avait absolument Pierre Freinet. Alors, le rapport Gabriel, tout d'un coup, Dieu n'a plus besoin des hommes, c'est ça?
Au départ du livre, il y a deux idées. Peut-être on reviendra à la philosophie, peut-être à la fin. Il y a deux idées philosophiques très simples, très très simples. La première, c'est une idée importante, c'est Dieu existe-t-il? Et la deuxième, c'est pourquoi y a-t-il du mal dans le monde? Et au fond, ce sont ces deux idées-là qui sont à la base du livre. Mais vous savez bien, je le répète assez souvent, qu'on n'écrit pas un livre avec des idées. S'il y a des idées, des passions, des sentiments, des souvenirs, tant mieux. Mais on écrit un livre avec des mots. Donc, ces deux idées qui sont si présentes sont absentes, elles sont gommées. Vous ne trouverez aucun tunnel sur l'existence de Dieu dans le rapport Gabriel, ni sur le problème du mal. Mais les deux problèmes sont là, ils sont à l'origine du livre. Et Dieu, en effet, est mécontent des hommes. Et vous savez, on a parlé de Chateaubriand, on a parlé de moi, on a parlé des contradictions chez l'un et chez l'autre, mais peut-être qu'il y a aussi, je ne voudrais pas blasphémer, mais il y a peut-être des contradictions chez Dieu. Je suis sûr que Dieu aime les hommes plus que tout. Peut-être que la plus grande des religions est fondée sur cet amour des hommes si stupéfiant. Si stupéfiant qu'il y a quelque chose qui est quand même admirable. Bon, je me moque un peu de Gabriel, je traite ça de façon désinvolte et j'ai peut-être tort. L'incarnation est tout de même quelque chose de sublime. De sublime. L'idée d'un Dieu qui devient homme, c'est quand même prodigieux et c'est ça qui est le propre du christianisme. La justice, la vérité, la bonté, n'écrasez pas les pauvres, ne crachez pas sur les malades. Vous savez, ça existe partout. Le propre du christianisme, c'est que Dieu se fait homme. Donc l'incarnation, c'est quand même sublime. Et ce Dieu qui aime les hommes, je crois que les hommes le font souffrir. Je crois que les hommes le font souffrir. Et là aussi, j'ai des textes précis. Dieu n'attend pas le rapport Gabriel pour vouloir faire disparaître le monde. Je crois me rappeler qu'il y a quelque chose qui s'appelle le déluge et que Dieu, il y a très très longtemps, a déjà eu assez des hommes. Et il a essayé. D'ailleurs, c'est une tentative de destruction du monde, mais avortée. Bon, elle ne va pas jusqu'au bout. D'ailleurs, elle est très injuste parce que vous avez remarqué dans le déluge comme Dieu est partial en faveur des poissons. Ça va très mal pour tous les animaux, sauf pour les poissons. Ça pose des problèmes. Alors, Dieu, évidemment...
Ictus. Hein? Ictus, Ictus, le poisson. Jésus-Christ.
Voilà une thèse pour
Jésus-Christ,
les
Jésus-Christ,
le poisson dans la religion.
Alors je ne me rappelle plus la formule grecque, mais en effet, ictus, le poisson.
Jésus, oui. Christos,
fils...
Ictus, soter, ictus, ictus, Jésus-Christ, enfin... Le professeur,
c'est un latiniste.
Mon ami Robert, et je vous dirai ça mieux que je ne le ferai. Donc, y a aussi une autre chose frappante, c'est que l'univers, mettons que l'univers est 15 milliards d'années, ça va très très bien pendant de très très longues années, pendant 14 milliards 999 millions d'années, Dieu n'a aucun motif d'être mécontent. Il devient mécontent avec les hommes. Il les aime plus que tout, c'est clair. Mais comme il les a fait libres, qu'est-ce que font les hommes ? Les hommes passent leur temps à défier Dieu. L'histoire de l'humanité, c'est une longue lutte entre Dieu et les hommes. Et finalement, les hommes imaginent qu'ils ont tué Dieu. Vous vous rappelez la mort de Dieu ? Et à peine a-t-on parlé de la mort de Dieu qu'est arrivée naturellement la mort de l'homme. Michel Foucault a attaché son nom à la mort de l'homme et ça nous paraissait très obscur, cette mort de l'homme. Et au fond, on commence à voir ce que c'est la mort de l'homme. Avec les manipulations génétiques, avec le clonage, avec les robots, on peut imaginer ce que c'est la mort de l'homme. Vous savez, l'homme a commencé par comprendre la modestie de son passé au XIXe siècle, avec Darwin, avec la célèbre querelle de Darwin. Nous descendons, non pas des singes, mais nous descendons des primates, nous descendons des... Malgré l'université de... Je ne sais pas quelle université américaine qui a rejeté l'idée de l'évolution, nous descendons quand même des primates, nous descendons des algues, nous descendons de la matière, et il y a un lien qui court de la poussière d'étoiles jusqu'à la pensée. Mais dans l'avenir, ça va être la même chose. L'homme n'est pas permanent, l'homme n'est pas éternel, pas très surprenant, l'homme n'est pas Dieu. Et les hommes vont changer. Et ils sortent d'origine extrêmement humble. J'ai peur aussi que l'avenir soit naturellement imprévisible, mais qu'il y ait des modifications stupéfiantes chez nos descendants. Il ne faut surtout pas s'imaginer, je ne parle pas naturellement de dans 1000 ans ou dans 3000 ans, mais dans 1 million d'années, dans 10 millions d'années, dans 1 milliard d'années, il ne faut pas nous imaginer nos descendants comme nous dans un autre univers. Ce seront des êtres totalement différents qui seront là. Eh bien, dès l'origine de l'homme, Dieu est mécontent et il veut mettre fin à cette entreprise. Il a essayé avec le déluge, et bien il essaye une deuxième fois et il donne une dernière chance à l'humanité. Il leur envoie quelqu'un qu'ils connaissent bien, qui aime beaucoup les hommes et les femmes, qui a été voir Abraham, qui a été voir Daniel, qui a été voir Zacharie, qui est le père, comme vous savez, de Saint Jean-Baptiste, qui a été voir, et c'est, on tourne en rond, qui a été voir la Vierge Marie, et c'est probablement, à mes yeux en tout cas, l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Probablement. À mes yeux, et peut-être même aux yeux de beaucoup qui ne sont pas chrétiens. Il est évident que l'arrivée du christianisme dans le monde romain est un événement prodigieux, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Et puis, il est venu encore une fois, il est venu dans des temps historiques, il n'y a pas tellement longtemps, 200 ans avant Charlemagne, il est venu voir un autre personnage qui s'appelle Mahomet. Et c'est une scène magnifique, la scène de Gabriel qui s'appelle Jibraïl chez les Arabes. Jibraïl tend le Coran à Mahomet. Et Mahomet ne peut pas, le refuse en disant « Je ne sais pas lire ». Et d'ailleurs, ce serait bien intéressant, je me tourne encore vers mon confrère. Est-ce que Jésus savait lire et écrire ? Alors, il y a dans... Vous savez, c'est un bon livre qu'on peut lire indéfiniment. Il y a dans le Nouveau Testament, il y a une allusion, je crois que c'est dans l'épisode de la femme adultère. Jésus se détourne et trace
sur le sable.
Il faut dire que c'est d'une beauté, c'est magnifique. Voilà, voilà la littérature, mieux que les jeunes romans des jeunes femmes qui nous racontent des aventures sexuelles de nos jours. La femme adultère, Dieu se détourne, Jésus se détourne, et trace quelques mots sur le sable. Qu'est-ce qu'il a écrit sur le sable ? Qu'est-ce qu'il a écrit sur le sable ? Nous ne le savons pas. Et Mahomet donc refuse, là, là, là. Et Gabriel lui dit, c'est pas grave, t'en fais pas, je vais te le dicter. Et toi, tu le dicteras à ton entourage. Et c'est l'entourage de Mahomet, comme vous le savez, qui écrit le Coran. Et il y a une page extraordinaire, c'est que un jour, Mahomet arrive et dit « Ce que je vous ai dit hier ou avant-hier, il faut l'effacer. » Parce que je vous ai dit que c'était Gabriel qui me l'avait dicté, mais ce n'est pas Gabriel. C'est le diable qui a pris le visage de Gabriel. Et ça, il faut l'effacer. Et vous savez ce que c'est? Vous savez tous ce que c'est. Ce sont les versets sataniques de Rushdie. C'est lié à Gabriel. C'est les versets sataniques de Rushdie. Et alors donc, Gabriel arrive, mais encore une fois, je crois que je vous ai déjà dit ça peut-être avant-hier, l'âge des prophètes est terminé, l'âge des vierges mères est terminé, peut-être même que l'âge des grands écrivains est terminé, et Gabriel, qui a vu des gens si importants, tombe sur moi. Et évidemment, comment est-ce que je sais tout ce que je vous raconte sur Dieu? J'ai pas de ligne directe avec Dieu. Tout ce que je sais sur Dieu, c'est Gabriel qui me l'a raconté. Et moi, en échange, je lui raconte notre monde. Et nous essayons à nous deux de faire ce rapport pour sauver le monde. Alors, le livre est aussi un roman policier. Est-ce que le monde va être sauvé ou est-ce qu'il va être détruit? Ou peut-être il est déjà détruit et nous vivons dans un monde détruit? Eh bien, pour le savoir, il faut lire le rapport Gabriel jusqu'à la dernière page. Voilà.
Je voudrais vous poser une question sérieuse, là.
Oui. Non. Pourquoi est-ce que les anges volent?
On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler. À propos du christianisme, bon, vous recevez la visite de l'archange Gabriel. Par lui, vous entrez assez directement, enfin, par personne interposée, en relation avec Dieu. Vous venez à diverses reprises d'évoquer le christianisme, d'évoquer l'incarnation, l'annonciation, enfin, un certain nombre de dogmes ou d'aspects importants de la religion chrétienne. Chaque fois, vous dites sublime. Pour l'incarnation, vous dites sublime. La religion chrétienne, prodigieux, très intelligent. L'épisode de la femme adultère, vous dites, c'est d'une beauté. Est-ce que votre relation avec la religion chrétienne est une relation d'ordre purement esthétique? Est-ce que vous utilisez qu'on peut trouver dans la religion chrétienne à des fins exclusivement littéraires, c'est-à-dire, est-ce que c'est décoratif pour vous, la religion chrétienne, ou est-ce que c'est quelque chose qui relève de la foi personnelle, d'une adhésion de l'intelligence et d'une adhésion du cœur?
Je réponds à la question par un non catégorique.
Bon.
Non, bien sûr que non. D'abord, je trouve en effet que la religion chrétienne est en effet sublime. Mais je vais vous dire, je trouve que l'islam, c'est sublime aussi. Et je dois vous dire que la religion juive, tout ce qui est religieux, par définition, nous entraîne ailleurs. Tout ce qui est religieux nous entraîne ailleurs. Et on a beaucoup dit que ce livre était un testament. Ce n'est pas un testament, le rapport Gabriel, mais c'est sûrement un bilan et c'est sûrement une sorte d'examen de conscience. Et au fond, vous me posez la question que Pivot m'a posée à peut-être que quelques-uns d'entre vous ont vu le bouillon de culture et qui m'a posé d'entrée. Il m'a dit « Croyez-vous en Dieu ?» Alors moi, j'attendais la question pour la fin. J'attendais, mais pour la fin. On n'avait pas préparé, encore une fois. Alors, d'abord, il est clair que les religions, c'est en effet sublime dans l'histoire des hommes. Il y a beaucoup de choses sublimes. La science est sublime. La découverte de la science, ça me paraît quelque chose. Bon, si j'ai consacré ma vie finalement au livre, c'est que tout enfant, j'étais curieux. Et le savoir me paraissait quelque chose, de magnifique. Et plus j'ai avancé, plus la découverte, par exemple, de l'univers, plus cette généalogie. Bon, Peggy parle de la généalogie Kant, Cugenuit, Hegel, Kant, Cugenuit, Fichte, Cugenuit, Schelling, Cugenuit, Hegel, Cugenuit. On peut continuer, Marx et Lénine et Staline. Eh bien, il y a une généalogie qui part de Copernic, qui part de Ptolémée, et Copernic, Kepler, Galilée, Newton, Einstein. Finalement, c'est... Toutes ces formules d'Einstein, ce qu'il y a de plus incompréhensible dans le monde, c'est qu'il soit compréhensible. C'est magnifique. Ou la lettre d'Einstein à un grand savant français que nous avons ignoré de façon assez honteuse. Sa mort a été moins célébrée que celle d'un chanteur. Nous avons un grand génie qui était à l'Académie. Les génies, vous savez, ils courent pas les rues à l'Académie, hein. Mais il y en avait un, c'était Louis de Broglie. Et Einstein avait écrit à Louis de Broglie une lettre. Moi, quand j'ai lu cette lettre, ça m'a fait monter les larmes aux yeux. Vous avez soulevé un coin du grand voile. Les Broglie sont une famille d'origine italienne, je crois, qui arrive en France. Et tout de suite, les Broglie m'ont intéressé parce que ils ont une devise que j'aime beaucoup. Vous savez que les grandes familles ont des devises souvent un peu ridicules. Par exemple, les Mortemart ont comme devise, les Mortemart, c'est la même famille que les Rochechouart. La famille des Mortemart-Rochechouart, c'est « Avant que le monde fût monde, Rochechouart portait des ondes ». C'est magnifique, mais un peu ridicule. Les Esterházy, qui sont une grande famille hongroise, ont une formule, une devise inouïe. « Sous Adam III, Esterházy, Dieu créa le monde. » Et la famille, la devise des Broglie, c'est... Qu'est-ce que c'est que la devise des Broglie? La devise des Broglie, c'est « Pour l'avenir ». Et Louis de Broglie, qui était un grand génie, Léon Blum lui a remis la Légion d'honneur. Et vous savez qu'on nous remet à tous des épées, des Légions d'honneur, c'est des discours interminables, c'est chiant à mourir, on mange des petits fours, on fait les bancs. Et Léon Blum arrive et dit à Louis de Broglie, « Monsieur, vous appartenez à une famille où le talent était héréditaire jusqu'à ce que le génie y entra et il lui colle la Légion d'honneur. » Voilà, ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Alors, l'aventure de la science est évidemment sublime. Et la musique est sublime. On pourrait, évidemment, je parle peu de la musique parce que je la connais peu, mais ne croyez pas que je ne l'aime pas. Il y a une formule de Sioran qui est si belle. Il dit « Dieu doit beaucoup à Bach ». Alors, évidemment, la musique, c'est sublime. Et si la peinture n'était pas sublime, ben, c'est ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on apprend aux enfants, on leur apprend la littérature comme une corvée. Et moi, on m'a traîné aussi dans les musées. Et ça me faisait périr d'ennui. Mais évidemment, quand vous découvrez un tableau qui vous plaît, vous pouvez aller le voir éternellement parce que s'il y a quelque chose là-dedans, comme dans la littérature, qui est magnifique. Eh bien, les religions sont évidemment plus belles que tout, parce qu'ils nous parlent d'un autre monde, et qu'ils nous parlent de la mort, et qu'ils nous parlent de ce qui nous attend, et qu'ils nous disent ces formules qui sont la clé de tout. D'où venons-nous? Que faisons-nous? Où allons-nous? Et Kant dit dans une formule que tous les enfants connaissent, j'espère, deux choses éveillent le sublime en nous, la voûte étoilée au-dessus de nous et la loi morale en nous. Voilà, c'est magnifique, évidemment, la religion, c'est très beau. D'abord, vous savez, évidemment, s'il n'y avait pas de religion, pourquoi... Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout au motif bas des grands mouvements. Je crois que tout ça a des motifs très hauts. Et il y a la formule de Dostoïevski qui est quand même très très belle. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et les religions, donc, bon. Alors,
voilà. Alors, est-ce qu'on peut revenir à la question que je vous ai posée? Alors, je vais vous la poser autrement.
Après tout,
Pivot vous a demandé, qu'est-ce qu'il vous a demandé?
Pivot, il m'a demandé.
Est-ce que vous croyez en Dieu?
Est-ce que vous croyez en Dieu?
Moi, je vais vous la poser autrement.
Mais je veux tout à l'heure, vous avez bien répondre à cette question.
Voilà. Justement, c'est la même, d'ailleurs. Vous avez dit à propos de Chateaubriand, Il était très catholique, mais il adorait les femmes, n'est-ce pas? Bon, j'ai pas très bien compris d'ailleurs pourquoi un catholique était conduit à ne pas aimer les femmes.
Mais comment? Mais parce qu'elle
péchait de chair. Après, j'ai compris.
C'est... Vous êtes très heureux, mon cher Jean-Marie. Vous ne savez pas ce que c'est que l'innocence faite homme. Je vais vous poser une question. Vous êtes marié?
Non, j'étais.
Alors c'est moi.
Aucun problème.
Enfin, l'adultère, ça pose des problèmes. Le péché de chair, c'est pas bien, vous savez.
Jean, est-ce que vous pouvez, répondre à la question suivante?
Dans vos instants, dans vos loisirs, à quoi vous livrez-vous, Jean-Marie?
Je lis les livres de Monsieur d'Ormesson. Pardon, mais les loisirs.
Il y a des livres qu'on lit d'une main.
Exclusivement. Oh. Alors, le prochain, alors, parce que l'archange Gabriel n'est pas... Alors... Très catholique, mais il adorait les femmes. Bon, vous adoriez les femmes, c'est évident, et c'est, le livre l'atteste une fois encore. Est-ce que vous dites catholique? Est-ce que, par exemple, vous rappelez la formule de Mauriac, je suis un catholique qui écrit des... Il voulait pas qu'on parle de romancier catholique, donc il disait, je suis un catholique qui écrit des romans. Est-ce que vous êtes un catholique qui écrit des romans?
Je ne suis sûrement pas un catholique qui écrit des romans. Je suis à peine un romancier catholique. Et je suis, si j'étais un catholique, je serais un exécrable catholique. Alors, à quoi est-ce que je crois? Eh bien, je vais vous dire à quoi je crois. Et déjà, ça donne une grande indication. Je crois à un plan de l'univers. Je crois à un plan de l'univers. Ce qui est une opinion qui, aujourd'hui, n'est plus très exceptionnelle, mais qui a... 30 ans ou 50 ans était extrêmement rare dans les milieux intellectuels. Dans les milieux scientifiques, dans les milieux intellectuels, l'idée qui dominait, c'est que le monde, l'univers, était le fruit du hasard et de la nécessité. C'était la règle, c'était adopté. Et chez les intellectuels, l'idée, chez les écrivains même, l'idée qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à une providence ne pouvait que faire rire. Que faire rire? Eh bien, je crois à un plan de l'univers. Je crois que nous ne sommes pas là par hasard. Et je crois tout à fait, ça va devenir très très sérieux, hein, vous l'avez voulu.
Oui, je l'ai voulu.
Je crois tout à fait à la nécessité dans ce monde. Pourquoi est-ce que je crois à la nécessité? C'est parce que nous sommes dans l'espace et dans le temps. Et l'espace et le temps jouent un rôle considérable dans tout ce que j'ai écrit. Et on pourrait parler des heures, du temps. Je crois que venir au monde, c'est entrer dans le temps. Et mourir, c'est simplement sortir du temps. Et donc, nous ne pouvons rien dire de ce qui n'est pas dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace et dans le temps, je ne crois qu'à une chose. Je ne crois qu'à la science. Je ne crois pas beaucoup qu'il y ait des anges qui descendent du ciel nous voir. Je ne le crois pas. Et on me dit, pourquoi est-ce que vous avez mis roman à votre livre? Moi, je veux bien, si vous croyez que l'ange Gabriel est venu me voir, bon, alors je vais écrire mémoire. Mémoire d'un ange, si vous voulez. J'ai mis roman parce que je ne crois pas aux fantômes, je ne crois pas beaucoup aux anges qui viennent, je ne crois qu'à la science. Mais je crois aussi que la science ne s'explique pas elle-même. Je veux bien croire que tout est nécessaire en ce monde. Je ne vois pas pourquoi la nécessité est nécessaire. Je ne vois pas pourquoi la science domine ce monde. Elle le domine. Il y a une formule de Leibniz qui est très forte, qui dit « Dom Deus calculat fit mundus ». Pendant que Dieu calcule, le monde se fait. Et vous savez, à l'intérieur même de la science, c'est tout de même stupéfiant que le monde réponde, que le monde soit mathématique. Je crois que le monde est mathématique. Vous dessinez un pont, n'est-ce pas? Vous dessinez le pont chez vous. Et les techniciens ne vont pas sur le terrain, ils dessinent le pont chez eux. Vous dessinez des avions, je crois qu'on en dessine à Toulouse, on en dessine à Bordeaux, oui, je crois aussi. Vous les dessinez avec des chiffres, et puis vous passez sur le pont et le pont tient. Et vous montez dans l'avion et l'avion vole. C'est-à-dire que les chiffres expliquent le monde. Je dirais presque, vous savez, on parlait des devises des grandes familles, on pourrait dire que le chiffre de Dieu, au sens de, d'emblème, le chiffre de Dieu, c'est le nombre. Et qu'on peut approcher Dieu par deux voies et par deux voies seulement. L'une est l'amour ou la culture, c'est la même chose, la poésie, la peinture, la musique. Je crois qu'on peut approcher Dieu par l'amour. Et la deuxième, c'est par le nombre. Et qu'en effet, les gens qui sont le plus proches de Dieu, c'est peut-être les grands savants. Mais je crois que... Et c'est bien intéressant de se demander, par exemple, si je n'avais pas écrit le rapport Gabriel, eh ben, il n'aurait pas existé antérieurement à mon écriture. Le Requiem de Mozart... Le Requiem de Mozart n'existe pas avant que Mozart l'ait écrit. Ou l'homme au casque d'or de Rembrandt n'existe pas avant que Rembrandt l'ait peint. Mais le savant, est-ce qu'il découvre l'univers avec ses nombres ou est-ce qu'il l'invente? C'est bien intéressant comme sujet. Est-ce que le savant, le mathématicien, est-ce que la démarche mathématique est une invention ou une découverte? Beaucoup de savants répondront que c'est une invention. Moi, j'ai tendance à croire que c'est une découverte. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose qui fonde la science et aussi quelque chose qui fonde l'espace et le temps. Et j'ai eu, chez Pivot, une discussion avec un savant. Je n'arrive pas à sa cheville, je ne comprends pas un mot de ce qu'il dit. C'est un très grand savant, c'est Prigogine, qui est prix Nobel, non pas de mathématiques. Vous savez qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Et vous savez pourquoi? C'est parce que la femme de Nobel était partie avec un mathématicien. Mais Prigogine est prix Nobel de chimie, et sa thèse est que le Big Bang est une réalité unique, naturellement, et dont on ne peut pas parler, parce que c'est ce que les physiciens appellent un phénomène unique. C'est-à-dire la science ne peut pas remonter au-delà. Et lui croit que ce phénomène s'est produit dans le temps. Moi, j'aurais tendance à croire que le temps a été créé aussi, comme l'espace, par le Big Bang. Parce que si le temps est éternel, autant l'adorer tout de suite. Si le temps, c'est l'éternel, alors adorons le temps. Je comprendrais d'ailleurs qu'on adore le temps. Moi, j'ai tendance à croire que le temps, il y a quelque chose derrière. Je crois, selon, comme dit saint Augustin, que le temps est l'image mobile de l'éternité. Et puisque je suis dans les pères de l'Église, disons que tout ce qui n'est pas dans le temps et dans l'espace, nous ne pouvons pas en parler. La dernière formule d'un très grand philosophe qui s'appelle Wittgenstein, qui a écrit un célèbre tractatus, c'est « Ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire ». C'est pour ça que je ne parle pas à tout bout de champ de Dieu. Il y a une formule juive aussi que j'admire beaucoup. On ne parle pas de Dieu, on parle à Dieu. Et peut-être j'ai trop parlé de Dieu. Et on ne peut pas en parler. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Mais c'est très simple. On peut l'espérer. Et il y a une formule, pas de saint Augustin, je crois que c'est de saint Thomas, qui est magnifique, et qui répond alors directement à votre question. Ma foi est la forme de mon espérance. Je ne sais pas s'il y a un Dieu. Et je ne peux pas le savoir. Peut-être que Jean Guiton a rencontré Dieu, peut-être que Froissart a rencontré Dieu. Saint Augustin et saint Thomas ont sûrement rencontré Dieu, moi pas. Tout ce que je peux faire, c'est l'espérer. Et franchement, je l'espère. Parce que si ce monde s'achève en lui-même, et si tout ce qu'il y a, je ne vais pas dire sous le soleil, parce que sous le soleil, il n'y a que l'univers, il n'y a que le monde. Mais si il n'y a en tout et pour tout que ce monde, alors franchement, c'est une sacrée comédie et une sacrée tragédie. Et tout ce que je peux dire, c'est que j'espère qu'il y a autre chose.
On va passer à un autre sujet, mais je ne suis pas tout à fait satisfait de de votre réponse. Ah. Autrement dit, bon...
Non, mais exprimez-vous.
Je vais m'exprimer. Le Dieu qui vous intéresse, le Dieu en qui vous espérez, c'est le Dieu des philosophes, quoi. Quand vous nous parlez du plan de l'univers, du Big Bang, l'opinion des scientifiques qui, en effet, s'achemine de plus en plus vers l'idée d'un plan de l'univers.
Je crois qu'il y a une évolution,
souterraine, secrète,
mais assez curieuse.
Et ça, c'est le Dieu des philosophes, c'est le grand horloger du XVIIIe siècle. Le Dieu sensible au cœur de Pascal, est-ce que ça vous dit quelque chose, vous, le Dieu sensible au cœur?
Au fond, on tourne autour de quelque chose. Autour de quoi? Oh, je ne vais pas vous faire des confidences. Au fond, il y a deux personnages dans le rapport. Il y a deux personnages qui sont présents d'un bout à l'autre. Et ils sont présents, tous les deux, que sur le mode de l'absence. L'un de ces personnages, c'est Marie.
Marie.
Marie, qui est présente d'un bout à l'autre du livre. On m'a d'ailleurs beaucoup interrogé sur Marie. Mais comme je résiste aux questions, comme vous le remarquez... Et elle est présente et absente. Et l'autre personnage, qui n'est présent que par son absence, c'est Dieu. Et au fond, on tourne autour d'un problème. Au fond, ce que vous voulez me demander, c'est est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu?
Par exemple. Est-ce que vous priez? Enfin, des choses comme ça.
Est-ce que vous priez? Ouais. Je vais vous répondre quelque chose qui vous allez trouver ça très poseur. Mais je ne suis pas tellement poseur. Je peux l'être pour une fois. Je vais vous répondre. Je ne prie pas, mais j'écris des livres. Vous prendrez ça comme vous voudrez. Et Jésus est évidemment, à mes yeux... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas. Est-ce que Jésus est fils de Marie et de Dieu? Est-ce que Jésus est ressuscité au bout de 3 jours? Est-ce que Jésus est monté au ciel? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous savez, il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour me faire fondre en larmes. Vous me ferez fondre en larmes assez facilement à l'évocation de ma mère ou de mon père. Peut-être à l'évocation de Marie.
Il y a des pages admirables sur la mort de votre mère dans le livre.
Oui.
Admirable.
Ça a été rude, la mort de ma mère. Et Dieu, c'est rude aussi, et ça peut me porter aussi au bord des larmes. Je ne sais pas. Évidemment, c'est, j'imagine que personne ne peut contester, même l'athée le plus enraciné, que Jésus est... Mais ça ne répond pas à la question. Et l'homme qu'on est le plus tenté de suivre, qu'on est le plus tenté d'aimer, qu'on est le plus tenté d'admirer, on est tenté de tout lâcher pour le suivre. Ça ne répond pas à la question, est-ce que Jésus est Dieu? Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux que laisser ça à la conscience de chacun d'entre vous et vous répondre que pour ma part... je n'ai pas l'illumination. Et c'est vrai que le rapport Gabriel ne vous donnera pas la réponse à toutes les questions que vous posez. Il vous donne la question, et c'est déjà beaucoup. Ce dont je suis sûr, c'est que nous vivons dans une énigme, puisque nous vivons dans le temps. Que nous vivons dans une merveille, dans une énigme et dans un miracle. Et que ce temps est quelque chose de tellement stupéfiant qu'il est impossible, à moins de se boucher les yeux et les oreilles, de ne pas s'interroger sur ce qu'est ce temps et d'où il vient. On peut imaginer encore que la matière sorte d'un Big Bang derrière lequel il n'y aurait pas de Dieu et que l'énergie se transforme en matière, la matière en vie, la vie en pensée. Bon, mais le temps... Le temps ne se change pas comme ça. Le temps, c'est un tout ou rien. Comment naît-il, le temps? Et vous voyez que tout de suite, derrière le temps, il y a le problème de Dieu. Je crois qu'il est impossible de penser le problème du temps, sans penser le problème de Dieu. Je ne peux que vous renvoyer aux Confessions de Saint-Augustin. Il y a le livre 9 ou le livre 11 qui dit des choses très, très belles là-dessus.
Donc, ça y est, le public a la parole et peut poser des questions à Jean d'Ormesson.
À propos de Jésus, vous avez posé la question de savoir s'il savait lire ou écrire. Apparemment, à 12 ans, il savait lire. Parce que si on évoque l'épisode...
Les docteurs.
Les docteurs
de la loi.
Merci. Oui, ça
voilà, je vais terminer.
Merci beaucoup, merci. Vous avez raison, vous avez raison. Tandis que Mahomet ne savait ni lire ni écrire. Charlemagne, d'ailleurs, bon, on quitte les dieux pour les rois. Comme vous savez, on dit quelquefois quelle langue parlait Charlemagne. Il parlait le francique. Je crois qu'il avait des notions de grec et évidemment de latin. Mais il ne pouvait pas les écrire parce qu'il ne savait pas écrire. Charlemagne ne savait pas écrire.
Une autre question.
Merci, monsieur.
Moi, je vois une contradiction... Ouais. Vous dites
qui parle.
Alors, c'est une dame qui est à vos pieds, je crois.
Madame.
Mais invisible.
Vous dites, l'incarnation, c'est sublime. Et après, vous dites, je ne suis pas sûre que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui est sublime, alors? Pour moi, c'est le fait que c'est le Fils de Dieu. Sinon, ce n'est pas sublime.
Enfin,
c'est...
Oui, non, mais si, il y a des choses sublimes. Et naturellement, c'est sublime, l'idée. Vous savez, l'idée que Dieu s'est fait homme, c'est sûrement sublime. Mais il y a peut-être... Je vais me faire l'avocat du diable pour vous répondre. Il y a peut-être quelque chose d'un peu inquiétant. La religion chrétienne, et en particulier l'Église catholique, sont si intelligents, que peut-être ils veulent nous faire dire, nous faire comprendre autre chose. Dieu s'est fait homme, donc Dieu égale homme. Et c'est peut-être non pas Dieu qui s'est fait homme, mais le christianisme est peut-être l'origine de ce qui apparaît le plus ennemi à lui, c'est-à-dire la philosophie, les Lumières, le socialisme, l'athéisme. Peut-être que... En faisant de Dieu un homme, l'Église a voulu montrer que l'homme devenait un Dieu. Et vous voyez qu'on peut renverser la chose. Et alors l'incarnation prend un sens bien différent. Elle prend le sens symbolique que lui avait donné, par exemple, un Renan. Et elle marque non pas la descente de Dieu vers l'homme, mais la montée de l'homme vers Dieu. C'est sublime aussi, mais c'est très différent.
Il y a un monsieur qui a une question.
Oui, monsieur. Aussi bien dans La Douane de Mer que dans le rapport Gabriel, au début de vos livres, vous faites une mise en scène qui vous permet de dialoguer d'une part avec un esprit extraterrestre et d'autre part avec Gabriel. En faisant ces mises en scène, est-ce que vous avez pensé à un moment quelconque au prologue au ciel de Goethe dans Faust? Ça, c'est une question. Et une autre question... Après vous avoir entendu ici, on a vraiment envie d'avoir un troisième livre de cette sorte-là, dans lequel vous dialogueriez vraiment directement avec Dieu.
Peut-être que vous vous lasseriez, et peut-être même Dieu lui-même se lasserait. Vous avez raison. D'abord, je voudrais dire aussi que je parle ici... comme je parle politique, je parle politique dans un journal, comme tout citoyen a le droit de parler comme politique au Café du Commerce. Ici, je ne voudrais pas me faire passer pour un théologien. Je ne connais rien à la théologie.
C'est moi qui vous ai orienté vers
je
ça.
Je ne suis même pas philosophe, ou à peine. Si j'ai écrit des romans, c'est parce que j'ai bien compris assez vite que je n'étais pas capable d'être philosophe. Et donc, je vous prie de me pardonner toutes ces réflexions que, encore une fois, je fais comme Gabriel descend sur moi, parce que chacun d'entre vous est capable de faire ces mêmes réflexions. Souvent, je pense que j'emploie, à la différence de mes confrères philosophes qui emploient un vocabulaire très compliqué, moi j'emploie les mots philosophiques les plus simples. Et les plus simples, ce sont ceux qu'on apprend aux enfants. Et les deux mots philosophiques dont je me sers volontiers, c'est le premier, c'est merci, et le deuxième, c'est pardon. Alors, est-ce que j'ai pensé à Goethe? Bien sûr, je connaissais Goethe. Il y a aussi Claudel qui a eu une influence sur moi. Et vous savez, le dialogue entre un esprit supérieur et un mortel, ça remonte à la plus haute antiquité. Mais souvent, on oublie ses origines. On peut prendre un exemple d'un écrivain tout à fait estimable, qui est Marie Darrieussecq. Elle a écrit des livres. Mais alors, ce qui m'a étonné, c'est pas le livre de Marie Darrieussecq, c'est les critiques. Les critiques ont dit, quelle nouveauté, ce personnage qui se change en cochon. Mais quelle nouveauté. Mais ils n'ont jamais lu Circé, non? Homère, Circé, la transformation des compagnons d'Ulysse en porc. Ils n'ont jamais, ils ne savent pas que l'origine du roman, c'est Apulée, avec l'âne d'or d'Apulée, ou que là encore, je me tourne vers toi, et c'est vraiment presque un lieu commun. Et la littérature consiste beaucoup à reprendre les thèmes de ses prédécesseurs.
Mais d'ailleurs, votre dialogue avec Dieu serait tout à fait normal, puisque vous êtes immortel.
Oui, enfin. Comme vous savez, je suis immortel pour la durée de ma vie. Et après, je me changerai en fauteuil.
Une autre question.
Cher monsieur, connaissant votre humour, votre courtoisie et votre tolérance, je me permettrai une digression sur votre roman que j'ai beaucoup admiré. À un moment, vous racontez l'entrevue de Michel avec son copain Gabriel. Nous savons que Michel, c'est l'archange sublime qui a terrassé le dragon. Et étant donné tout ce qu'il a fait, il a été honoré par les hommes sous forme de monuments, d'églises, de tableaux, de sculptures. Vous parlez de différentes villes comme Florence, comme Venise. Et vous avez oublié Bordeaux, où Saint-Michel a une des plus belles églises de l'Occident. Et je vous souhaite, cher monsieur, après cette conférence, d'aller faire un petit dîner porte de la Monnaie, et à la sortie, vous admirerez la flèche éclairée de Saint-Michel.
Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et Et je sollicite votre pardon pour cet oubli. C'est vrai que ces pages sur Saint-Michel et Saint-Gabriel me sont venues dans une autre ville que j'aime beaucoup, qui est Venise. Et je me promenais, ceux d'entre vous qui connaissent Venise, je me promenais un peu loin de la place Saint-Marc. En principe, je ne vais pas beaucoup sur cette rive-là. Je reste sur l'autre rive de Venise où il y a un peu moins de touristes. Et l'endroit que je préfère, c'est peut-être le coin entre la Douane de Mer et l'église Saint-Raphaël, qui est si belle, un peu décati. Et je me rappelle que c'est devant cette église Saint-Raphaël que j'ai pensé à un dialogue possible entre Saint-Michel et Saint-Raphaël. Et naturellement Gabriel parlant de leurs églises respectives et du culte qui leur est rendu. Et vous savez que les trois sont vénérés le même jour, c'était il y a quelques jours, le 29 septembre, culte de Saint Gabriel, Saint Michel et Saint Raphaël.
Vous savez que les Bordelais ont, c'est le cas de le dire, l'esprit de clocher. Et je me rappelle que vous avez écrit, alors je ne sais plus si c'est dans un roman ou dans un article, vous aviez fait un développement sur les plus belles places du monde, ou les plus belles places d'Europe, je ne sais plus. Et je vous avais dit quand même, vous en avez oublié deux. D'abord la place du commerce à Lisbonne, qui me semble une des plus belles places. Et puis vous avez oublié la place des Quinconces.
Je dirais que Bordeaux a au moins deux ou trois places admirables. Et je dois vous dire que une des plus belles places de France, probablement, c'est la place Stanislas à Nancy. Eh bien, la place de la Bourse à Bordeaux n'est pas indigne de cette place-là. À Bordeaux, vous avez au moins deux ou trois places qui sont parmi les plus belles de France.
Je voudrais que Pierre Gestet vienne faire son petit geste avec la main pour savoir si nous pouvons accueillir d'autres questions ou s'il faut passer à la signature.
Pardon,
Alors, peut-être une autre question, oui. Et après, Jean d'Ormesson signera le livre. Madame.
Monsieur, s'il vous plaît, vous avez...
Attendez, il y a une dame qui a un micro.
Alors, attendez,
Oui, excusez-moi.
Elle a le micro, elle est plus forte.
Vous avez été élevé dans la foi chrétienne.
Comment?
Vous avez été élevé dans la foi chrétienne.
Oui, madame, j'espère bien y mourir.
Alors, je voudrais savoir si de faire parler Dieu ne vous a pas posé un problème. Parce qu'il faut oser faire parler Dieu.
Eh bien, madame, je vais vous répondre en deux mots. D'abord, j'ai déjà répondu tout à l'heure par ce proverbe juif, on ne parle pas de Dieu, on parle à Dieu. Et puis, on m'a beaucoup interrogé sur la fin du livre. Je vais vous lire la dernière phrase qui répond exactement à votre question et qui n'est pas une phrase ironique, mais au contraire, peut-être pour rattraper ce qu'il pouvait y avoir de désinvolte dans ce livre. J'ai aimé le monde à la folie. La vie est belle, j'attends la mort et jeté, Dieu sait pourquoi, dans les tempêtes du temps, je bénis l'Éternel.
Je vous remercie,
voilà,
monsieur.
Je n'ai pas besoin de le lire parce que je sais par cœur. C'est même moi qui écris mes livres. Je les connais. À la différence des hommes politiques, ce qui est stupéfiant, c'est que non seulement ils ne les écrivent pas, mais il leur arrive de ne pas les lire. Alors, on les interroge et ils ne savent pas de quoi on parle.
Alors, je crois que Jean d'Ormesson va, après avoir écrit son livre, le dédicacer.
Voilà. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes.